Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Le prix Goncourt 2019 a été attribué au deuxième tour de scrutin à Jean-Paul Dubois pour Tous les hommes n'habitent pas le même monde aux éditions de L'Olivier.
C'est un exercice sur la lucidité, c'est d'essayer de voir comment fonctionne le monde, d'en accepter la rudesse, la dureté parfois, la douleur de la vie et de continuer à vivre. Et l'idée, c'est de, au moment de mourir ou de finir sa vie, de se rendre compte qu'on n'est que le fils de son père. C'est pas grandiose, mais c'est profondément humain. Moi, ça me va, je demande pas plus.
Ce que j'aime beaucoup, c'est que un siècle après Proust, qui lui a toujours parlé du même monde dans un endroit bien commun, là on a un romancier très cosmopolite qui est toulousain, dont les personnages vont aux États-Unis, en Canada, etc. C'est un romancier qui vit avec son époque, c'est-à-dire que pour lui il n'y a pas de frontières, les sangs sont mêlés, les eaux sont mêlées, il n'y a pas et les destinées se catapultent les unes contre les autres. Donc c'est quelqu'un de, je trouve, qui est très très moderne dans sa vision du monde et dans son écriture.
Bonjour à toutes et à tous. Jean-Paul Dubois a donc été consacré par le prix Goncourt 2019 pour son roman intitulé « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » aux éditions de L'Olivier. Bernard Pivot, président du jury que l'on entendait à l'instant au micro de Sébastien Gédor, disait tout l'enthousiasme qu'il avait eu avec les autres membres de l'Académie Goncourt pour ce roman, un enthousiasme que nous avions eu ici à RFI dès la rentrée littéraire pour ce roman étonnant entre comédie et tragédie, entre la France et le Québec, où il commence, derrière les barreaux d'une prison où se trouve un homme broyé par le système. À l'occasion de cette récompense majeure, la plus prestigieuse de la littérature française, je vous propose donc de retrouver Jean-Paul Dubois chez son éditeur, où il nous avait reçus. Mais pour commencer, entrons dans son univers avec un extrait du tout début du texte. Lecture.
La prison de la Rivière. Il neige depuis une semaine. Près de la fenêtre, je regarde la nuit et j'écoute le froid. Ici, il fait du bruit. Un bruit particulier, déplaisant, donnant à croire que le bâtiment, pris dans un étau de glace, émet une plainte angoissante, comme s'il souffrait et craquait sous l'effet de la rétraction. À cette heure, la prison est endormie. Au bout d'un certain temps, quand on s'est accoutumé à son métabolisme, on peut l'entendre respirer dans le noir comme un gros animal, tousser parfois et même déglutir. La prison nous avale, nous digère, et recroquevillé dans son ventre, tapis dans les plis numérotés de ses boyaux, entre deux spasmes gastriques, nous dormons et vivons comme nous le pouvons. Le pénitencier de Montréal, dit de Bordeaux pour avoir été construit sur l'ancien territoire d'un quartier éponyme, est situé au numéro 800 du boulevard Gouin-Ouest, à la lisière de la rivière des Prairies. 1357 détenus, 82 mis à mort par pendaison jusqu'en 1962. Autrefois, avant que l'on édifie cet univers de contention, l'endroit devait être magnifique, avec ce qu'il fallait de bouleau, d'érable, de sumacs vinaigriers et d'herbes hautes couchées par les passages des animaux sauvages. Aujourd'hui, les rats et les souris sont les seuls survivants de cette faune.
Bonjour Jean-Paul Dubois.
Bonjour.
Comme on vient de l'entendre avec cette lecture, votre nouveau roman s'ouvre sur une scène de prison où est incarcéré votre personnage principal, Paul Hansen. Comment est venue cette idée ?
Enfermer des gens, c'est le meilleur moyen de les faire sortir de leur vie, peut-être, les faire sortir d'eux-mêmes quand vous êtes enfermé, que vous n'avez pas d'issue. C'est la seule chose qui peut vous sauver, c'est de repenser à tout ce qu'a été votre vie et de la raconter. Et la prison, pour ça, c'est quelque chose, je trouve, c'est un endroit totalement inhumain, c'est un endroit qui n'est fait que de souffrance, d'humiliation, de douleur, même d'injustice. C'était très intéressant pour moi.
L'espace carcéral n'est pas un lieu anodin. Comment est-ce qu'on documente le quotidien, le manque d'hygiène, l'humiliation, la mauvaise nourriture quand on n'est pas passé par là ? Jean-Paul Dubois.
Et qui vous dit que je ne suis pas passé par là?
Alors je vous pose la question.
Non, je plaisante. Je plaisante. Non, c'est très ça. Moi, j'ai fait, quand j'étais à l'Observateur, je faisais beaucoup de reportages aux États-Unis. Je suis allé dans des prisons. Je suis allé à Saint-Quentin. Quand vous allez dans des prisons américaines, vous avez tout vu, quoi. C'était aussi bien des prisons psychiatriques, les prisons de très très haute sécurité et les prisons simplement de délinquance classique. Et vous voyez les conditions de vie, vous les visitez. Quand vous arrivez, on vous donne des conduites à tenir, c'est-à-dire que deux coups de sifflet, faut vous coucher par terre. Enfin, en cas de, vous signez une décharge. Vous avez tout un climat déjà en tant que visiteur. Et après, comme je travaille avec deux ordinateurs, toujours un sur lequel j'écris et un sur lequel qui remplace la documentation d'autrefois, je vais chercher tout. Et là, je suis allé chercher des documentations sur la prison de Bordeaux à Montréal, qui s'appelle Bordeaux parce que ça a été construit dans le quartier de Bordeaux de Montréal. Et vous avez absolument tout. Vous avez tout le programme de la journée. Vous avez très souvent la nourriture, vous avez les dimensions des cellules, vous avez les photos des cellules, vous avez tout. Donc il me suffisait de regarder et de réfléchir. Vous avez un toilette pour deux ou trois détenus. Donc après, il suffit de vous asseoir avec eux et puis de dire, bon, maintenant, ça se passe comment entre nous? Là, on a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans à tirer ensemble. Comment on va faire? Et arrive l'heure des toilettes et là, vous dites, voilà, ça se passe comment? Et vous racontez tout ça, parce que ça fait partie de la vie d'un détenu, ça fait partie de l'humiliation quotidienne, ça fait partie de l'irrespect de gens qui doivent vivre dans ces conditions. Il y a les rats, il y a tout ce qui fait le quotidien d'une prison. Mais vous allez dans les prisons françaises, je pense que c'est exactement pareil. Donc, c'est une question de sensibilité, après, personnelle. Vous trouvez ça acceptable, et puis vous dites, c'est détruant. Vous dites, bon, c'est pas possible, quoi. Et la vie la nuit dans une prison, c'est un truc. Moi, je m'y mets, c'est-à-dire que je me mets dans ces conditions-là, quoi. Je dis, comment dormir là? Comment dormir avec 40 mecs qui toussent ou qui s'engueulent? Parce qu'il y a des cris toujours dans les prisons, ça n'arrête jamais. Il y a toujours des gens qui gueulent, qui parlent fort. Il y a un bruit. C'est construit avec des matériaux non absorbants, quoi. Donc, tout est en permanence reflété.
Donc pour écrire, vous vous êtes un peu projeté, Jean-Paul Dubois. Vous vous êtes mis en situation. Et en même temps, je me disais, où est-ce que vous avez puisé, dans quelle prison personnelle avez-vous puisé ce sentiment comme ça d'enfermement,
de ma vie de tous les jours. Moi, on est tous enfermés dans des prisons personnelles. Une grosse maladie, c'est une prison. Quand vous souffrez d'un mal qui vous bloque, qui vous extrait du monde, vous êtes dans une prison. Les prisons, elles peuvent avoir toutes les formes humaines. Ça, c'est pas compliqué. Tout est en nous. Tout ce qu'on raconte, c'est en nous, quoi. La fiction, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment.
Donc nous voilà, comme je le disais, en prison avec Paul Hansen. On ne sait pas encore les raisons pour lesquelles il a été condamné. Et nous sommes au Québec, pays donc où se déroule la plus grande partie de votre livre, Jean-Paul Dubois. Alors le Québec, c'est pas un lieu anodin, c'est même un endroit que vous connaissez bien pour y avoir vécu. Quel est votre lien aujourd'hui avec cette région du monde ?
Ben, je vis tous les jours au Québec puisque je suis marié avec une Québécoise, donc.
Mais plus au Québec même.
Mais c'est pareil. Ma femme téléphone 5 fois par jour à sa mère au Québec. Je connais. Ma fille vit avec un Québécois. Ça fait partie d'un univers très proche, quoi. C'est très familier parce que je le connais et puis parce que je m'y plais bien, j'aime l'hiver. Enfin, j'ai toujours aimé l'hiver que je considère comme l'élément moteur d'un livre, toujours. Dès les premières images, vous savez où vous êtes, quoi. Voilà. Vous savez que il y a quelque chose d'étouffant, d'inquiétant, à la fois de majestueux, de très beau. C'est très violent comme climat. Mais tout ça, c'est un truc qui donne un décor, une ambiance, la perte de lumière l'hiver. Pour quelqu'un comme moi qui suis du Sud et tout ça, j'étais pas habitué à ça, quoi. J'ai appris à aimer ça. La culture indienne, la culture, les Québécois qui sont des gens avec, pour moi, facile à vivre, à condition de ne pas être français. C'est-à-dire que j'oublie que je suis français, je suis pas un maudit français. J'essaie de pas être un maudit français pour eux. Pour moi, c'est un territoire tout à fait familier, quoi. Je suis chez moi, mais je suis chez moi dans tellement d'endroits, je me sens pas étranger, quoi.
En tout cas, on va comprendre pourquoi Paul est en prison au Québec, puisque c'est un endroit où il s'est installé 20 ans, 25 ans auparavant. Il est né en France, puisque en alternance, vous nous racontez, il nous raconte toute sa vie, et on va comprendre les raisons pour lesquelles finalement son existence a basculé, pourquoi il se retrouve en prison. Et ce qui me frappe, c'est que derrière cette histoire, on retrouve la patte Jean-Paul Dubois, à savoir des personnages incroyables, on pourrait dire parfois farfelus. En tout cas, vous avez la capacité de mettre en place des hommes et des femmes qu'on ne croise pas au quotidien, à commencer par les parents de Paul, par exemple. Le père de Paul est un pasteur qui vient du Danemark, qui a rencontré, on ne sait pas comment, la mère de Paul, qui, elle, tient un cinéma d'art et d'essai à Toulouse, où d'ailleurs elle va même projeter un film pornographique. C'est un couple insensé. D'où ils viennent, ces personnages, Jean-Paul Dubois?
Ils viennent, comment vous dire, c'est... Je n'aime pas inventer des choses. Et la plupart du temps, ce sont des gens... des profils de gens que j'aime, que j'ai aimé, que j'ai rencontré et que je reconstitue ou que je remodèle, mais qui ont une origine pour moi qui est très familière. La plupart des personnages de ce livre sont des personnages qui sont réels pour une grande partie. Les parents, c'est un mélange de mes parents, de ce qu'ils n'ont pas été, mais ce qu'ils étaient par certains côtés.
Mais ce lien avec le Danemark, par exemple.
Bah, mais ça, c'est parce que j'aime tous les pays nordiques. J'ai toujours rêvé d'avoir des parents danois, suédois ou norvégiens ou finlandais.
Donc scandinaves.
Ah moi oui, les pays du Nord pour moi sont une évolution. C'est un stade supérieur de l'évolution de l'occidental, quoi. Je les trouve tellement plus respectueux, tellement plus intelligents que nous, tellement plus moins sauvages, moins brutaux, plus loyaux. Je leur prête peut-être des qualités qu'ils n'ont pas, mais je le pense, je le sens comme ça. Je le vois comme ça. Et donc, je me suis fabriqué des parents scandinaves, enfin, un père scandinave et une mère...
Féru de cinéma.
D'un tout autre genre, ouais, féru de cinéma.
Mais pasteur, pourquoi la religion vous intéresse, Jean-Paul Dubois ?
Pas du tout. Elle m'a torturé pendant des années parce que j'ai été élevé chez les jésuites et je leur en voudrais toute ma vie. Je suis anti-religieux au possible, comme tous les gens qui ont vécu ce truc-là. Donc... l'image simple de l'Église, l'échec de l'Église, l'échec de la foi, l'échec de tout, amène à ce personnage qui est super digne jusqu'au bout, jusqu'à sa mort, mais qui va faire les deux tiers de son parcours de pasteur sans la moindre foi, mais en dissimulant à chaque fois, en faisant des discours généraux, comme le font parfois les pasteurs. Donc c'est pas... on s'en fout de la foi. C'est le parcours de cet homme, quoi, qui va vivre à contresens, à la contre-vie toute une vie.
Alors, pour poursuivre cette exploration de ces personnages, donc après le pasteur danois, la maman qui tient un cinéma d'art et d'essai et qui projette un film pornographique, il y a aussi la femme de Paul, puisque Paul donc s'installe au Québec. Pendant longtemps, il mène une vie de célibataire. Il s'occupe d'un immense immeuble, l'Excelsior, où il est le superintendant, donc à la fois concierge, mécanicien. Il s'occupe de la piscine, des plantes, des ascenseurs. Et puis un jour, il a un coup de foudre pour une femme, Wynonna, qui, elle, est pilote d'avion, indienne algonquine, et à moitié irlandaise. Vous connaissez beaucoup de femmes qui ont toutes ces caractéristiques, Jean-Paul Dubois ?
Oui. Enfin, toutes rassemblées, non, mais il y a beaucoup de sang mêlé.
Au Québec ?
Oui,
au Canada.
Partout. Oui, les gens qui ont... Il y a énormément de pilotes, c'est pilotes d'avion, mais c'est des pilotes, ce qu'on appelle les pilotes bros, c'est des avions taxi, quoi, qui vous amènent de lac en lac, ou de pourvoirie en pourvoirie, ou d'un territoire qui n'a pas d'accès, sont des avions de service, essentiellement, quoi. Et ça, c'est très très courant au Québec. Bon, moi, j'ai voulu y mettre une femme, parce que généralement, c'est des mecs un peu rugueux qui sont là, mais... C'est un personnage que moi qui n'aimais, c'est pas étranger, quoi. Et son rapport au monde, son rapport aux morts, c'est là où il y a une coïncidence avec son mari, c'est que lui vit avec des morts. C'est un blanc, c'est un occidental, c'est tout ce qu'il y a de plus classique, mais il vit, comme beaucoup d'entre nous, on le fait discrètement, mais lui vit. Il est visité par les gens qu'il a aimés et qui ont disparu. Et elle appartient à une culture où les morts sont là, et en plus on leur donne ce geste merveilleux quand on les enterre, de les enterrer avec leurs outils, avec ce qu'ils ont aimé dans la vie. Moi, j'aurais adoré enterrer mon père ou le brûler avec tout ce qu'il aimait. Et c'est la réalité d'une culture, et je trouve ça formidable. Et les deux, bien qu'étant issus d'histoires totalement différentes, ont en commun cette espèce de proximité avec les morts.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI, en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Jean-Paul Dubois pour son nouveau roman intitulé « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon » qui est paru aux éditions de l'Olivier. On l'a évoqué en première partie, c'est une histoire qui se passe en deux temps, à la fois le quotidien aujourd'hui d'un homme emprisonné pour un crime dont on connaîtra exactement la nature qu'à la fin du roman, et en alternance, Paul, donc, qui nous raconte son parcours, son enfance en France, son arrivée au Québec, comment il devient manutentionnaire dans un grand immeuble canadien, et comment il tombe amoureux d'une femme, une histoire qui va donc pas forcément bien se finir. Pour revenir sur le titre « Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon », il se trouve que c'est une phrase extraite du sermon que tient le pasteur Hansen à la fin de sa carrière, donc le père du narrateur. Il est devant son public à l'église et il sait qu'il va être déchu puisqu'il a péché. Il a cédé à la tentation du jeu, et donc voilà ce qu'il dit devant son public. Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase, Jean-Paul Dubois ? Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon.
Je vais essayer de vous raconter pourquoi ce livre, à ce titre-là, il y a une vingtaine d'années au Québec, j'ai rencontré un type, un plasticien, écrivain, musicien, un type extraordinaire, qui s'appelle Robert Racine, qui est très connu là-bas, qui fait des performances. Il a écrit tout Flaubert à la main. Je lui dis, mais pourquoi, Robert, tu écris Il me dit, parce que je veux l'avoir dans le poignet. Il lit des lectures publiques de Flaubert, il monte des escaliers, chaque chapitre, comme ça. Il se retrouve à 4 mètres de haut, et quand le livre est fini, il saute dans le vide. Singulier. Il a lu que Satie, qui était un blagueur, avait écrit que telle gymnopédie devait être jouée 789 fois d'affilée dans le plus grand sérieux et tout ça. Il l'a fait à la lettre, c'est-à-dire pendant 3 jours et 3 nuits, dans les opéras de Toronto, de Vancouver, je sais plus où. Il a répété 783 fois la même gymnopédie. C'est un mec très singulier, adorable, mais vraiment quelqu'un de délicieux, quoi, qui fait pas du tout le malin. Et il y a une quinzaine d'années, le Musée national du Canada, Ottawa, me téléphone et me dit « Voilà ce que vous voudriez faire. On fait une rétrospective pour Robert Racine dans tout le musée. On voudrait faire une plaquette. Est-ce que vous voulez faire ?» Comme il savait qu'on se connaissait, je lui dis « Ouais, ça me fait super plaisir. » Et je lui fais une plaquette de présentation de son affaire. Et tout en faisant le livre, je me dis, mais comment je vais pouvoir faire un titre là-dessus? Et tout d'un coup, je me dis, ah, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. C'est lui, ça. Et je fais ce titre-là. Voilà. Et j'oublie, les 15 années passent. Et quand je fais ce livre, à la fin du livre, je me dis, il faut que je trouve un titre. J'en avais fait 5 ou 6. Je fais, ça n'allait pas. Enfin, c'est pas que ça n'allait pas, mais... Et puis je me dis, quel titre je pourrais trouver? Et tout d'un coup, me vient cette phrase, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Et là, je vais sur Internet, je me dis, je vais quand même vérifier qu'il n'y ait pas un mec qui a eu l'idée de faire ça avant moi. Quoi. Et je vais sur Internet et je vois, tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? En dessous, je vois Jean-Paul Dubois. Et je redécouvre ce truc que j'avais complètement oublié, la préface de Robert Racine. Et le hasard, encore une fois, avait fait merveilleusement les choses, parce que ce titre, il est complètement... c'est un truisme, bien sûr, que tous les hommes... Mais pour moi, c'est Robert, c'est-à-dire ce mec-là, il habite le monde à sa façon. Et on est une infinité de gens, comme ça, à habiter le monde d'une façon totalement différente et personnelle. Bizarre, quoi, intime. Je pense que chaque personne a une façon d'être au monde. C'est-à-dire l'aptitude, selon ses besoins et selon ses nécessités, de développer une intelligence et une compréhension du monde qui lui est propre. Je crois à ça. Alors c'est à la fois très banal, tous les hommes habitent le monde, n'habitent pas le monde de la même façon, mais je pense que ça recouvre une réalité.
Habiter le monde sous-entend aussi habiter l'autre monde, ce qui est un peu la particularité de Paul, qui en effet... reçoit la visite dans sa prison de tous ceux qu'il a aimés, son père, sa femme et Nook, la chienne qu'il a accompagnée pendant quelques années. Ça, c'est une récurrence dans votre œuvre, Jean-Paul Dubois, la présence des fantômes. Décidément, il ne vous quitte pas, il ne quitte pas vos personnages.
Je ne pense pas qu'on puisse... oublier les morts, quoi, c'est quelque chose. Enfin, ce que vous avez aimé, on n'a pas un amour universel, mais il y a quelque chose qui fait que ça manque, quoi. Il y a un manque permanent, un manque, une absence qui fait que la solitude, la prison favorise ce genre de choses, la maladie favorise ça, le bonheur aussi favorise ça. Souvent, vous dites, ah, si mon père était là, si ma mère, si vous voyez ça. Quand il vous arrive un truc bien, quand vous aimez quelqu'un et vous dites « Ah, il aurait aimé cette femme », ou « Ma mère aurait aimé cette femme », ou « Mon fils », ou des gens qui ne sont plus là, qui manquent, ils vous manquent toujours, quoi. C'est-à-dire que... Et moi, j'aime bien les faire revenir dans des livres, quoi, leur redonner une corpulence, c'est-à-dire quelque chose d'épais, quoi, quelque chose qui va exister et qui va leur donner... leur rendre grâce, mais ça c'est des plaisirs personnels, mais en même temps ça donne encore et je pense une émotion, une réalité à un récit, quoi.
Oui, parce que l'écriture, la littérature permettent aussi non seulement d'habiter le monde autrement, mais de repeupler le monde.
Le temps d'un livre, après.
Le temps d'un livre, oui.
Le temps du livre, vous l'écrivez, mais après ça vous aussi. Moi j'ai retrouvé des odeurs de mon père, par exemple, en faisant des livres. Donc c'est quand même, la mémoire a une capacité de restituer des stocks qu'on a en nous. Et le livre, c'est comme la prison en fait. C'est exactement le même mode de fonctionnement, c'est l'isolement. Quand vous vous retrouvez seul avec vous-même, vraiment pendant une période d'isolement, tout ce stock, c'est laid comme ce mot, mais c'est ça, tout ce stock de mémoire, de passé, de souvenirs que vous avez, revient mécaniquement, c'est obligatoire. Et donc là, les absents reprennent corps, quoi. Et ça devient, c'est très facile, c'est très naturel.
D'ailleurs, le co-détenu de Paul, on l'a pas encore dit, c'est un ancien membre des Hells Angels, cette communauté de motards. Et comme un enfant, il dessine. Sur un cahier, où dites-vous, Jean-Paul Dubois, à défaut de refaire le monde, il s'est forcé de le redessiner. Écrire, c'est aussi redessiner le monde.
C'est essayer de redessiner son monde. c'était pas le monde. Moi, j'ai aucune prétention là-dessus. C'est essayer de mettre un peu d'ordre dans le bordel qu'on peut avoir en soi, de s'oublier en tant que type qui vit une vie quotidienne pour essayer de comprendre plein de choses, parce qu'un livre, ça aide aussi à comprendre, à se comprendre, à comprendre les autres. C'est pas à redessiner le monde, je saurais pas, je ferais pas le malin là-dessus. Non, mais c'est vrai, je saurais pas. Mais c'est une chose qui est sans but. Il y a pas de but, il y a pas sans espoir, sans but. Mais c'est comme quand je vais sur Google, quoi. Je vais apprendre un truc. Là, j'ai su pourquoi j'aimais le surintendant de l'immeuble. Je savais que je l'aimais avant.
Parce que c'est quelqu'un que vous connaissiez?
Oui, bien sûr. C'est le gérant, c'est le surintendant. Enfin, le surintendant, c'est un mot anglais. Qui n'a pas du tout le même sens, qui est le surintendant de l'immeuble ma femme. Donc c'est pas, je l'ai connu depuis que j'ai connu ma femme. Donc c'est
au Québec donc.
Ouais. Et j'ai vu cet homme aimer les gens, j'ai vu leur rendre service, je l'ai vu être ingénieux, intelligent, débrouillard, disponible, aimant. Chaque fois que ma femme rentre au Québec, avant qu'elle rentre, elle y va très souvent. Il va lui regonfler les pneus de la voiture, voir si la batterie est en état, si le froid. Enfin, personne lui demande tout ça. C'est quelqu'un de bien, il est hors du commun, quoi. C'est quelqu'un de brillant, voilà. C'est lui qui est à la base du livre. C'est lui qui, depuis que je l'ai rencontré, il est rentré dans ma tête et je me dis, putain, quel type extraordinaire. Voilà. J'ai eu envie de construire quelque chose autour de lui, de raconter ce monde-là, quoi, de voir à quel point il pouvait y avoir des gens formidables Il est à la tête aussi d'un pays, quoi. C'est un petit pays, 68 ouais. appartements. C'est une communauté. Et comment évolue cette communauté dans le temps, avec le vieillissement, la maladie, les modifications économiques et politiques. Comment, vous voyez, c'est tout un. Et lui, c'est le témoin de tout ça, quoi. C'est le mec qui voit ça, qui raconte ça, qui. C'est un poste d'observation et de alors je sais pas si ce poste-là rend intelligent ou si c'est lui qui est extrêmement intelligent pour voir tout ça, mais c'est un homme formidable.
Mais rassurez-nous, Jean-Paul Dubois, il n'a pas fait irréparable qui l'a mené en prison.
Non, mais les modifications que vous voyez dans la société crée des douleurs et des injustices de ce type où un cos-killer arrive dans un univers stable et vous fout un bordel d'enfer et casse tout.
Cos-killer, il faut dire que c'est quoi? C'est un homme qui ne pense qu'à l'argent, à l'économie. C'est le nouveau gérant de l'immeuble, c'est ça qui va tout déclencher.
Oui, c'est quelqu'un qui a une autre vision du monde et des rapports sociaux, des rapports humains, à qui on demande de rationaliser un monde qui avait sa propre logique et qui va dire votre logique, elle me plaît pas, elle coûte trop cher, et automatiquement tout se désarticule. Donc, l'introduction d'un type comme ça dans un univers qui a fait sa propre histoire lentement est extrêmement dommageable.
Et donc voilà, c'est ce qui va créer la crise.
Et c'est ce que je ferais moi si j'étais surintendant, si on me fout un type comme ça dans les pattes et qui m'humilie pendant toutes ces années, qui humilie mon chien, comme il le fait, qui humilie tout un savoir-faire, je lui arrache un morceau de l'épaule. Et je n'ai aucun regret, je fais 2 ans de prison et ça me va très bien. Et pendant ces 2 ans, je réfléchis à ce qu'a été ma vie. Et ça fait un livre.
Merci beaucoup, Jean-Paul Dubois.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman. Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon. Un livre qui a paru aux éditions de l'Olivier.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio. Les éditions